Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, transport, industrie, agriculture, dans chaque geste que nous faisons au quotidien, dans chaque objet que nous tenons en main, se cache un coût de production énergétique. De votre simple banane venue en avion cargo, à l'eau chaude de votre bain, du pétrole, du charbon, du gaz ont été nécessaires. Oui, mais voilà, comme vous le savez, les énergies fossiles ne sont pas inépuisables. On estime en effet que les réserves de charbon s'épuiseront dans 200 ans, que celles de gaz naturel s'épuiseront d'ici 100 ans, et que nous viendrons à bout de notre pétrole d'ici 50 ans. Parallèlement, l'inquiétante augmentation d'émissions de gaz à effet de serre que produisent le pétrole et le charbon, gaz à effet de serre responsable en grande partie du réchauffement climatique, nous pousse vers l'exploitation de nouvelles ressources énergétiques. Dans ce contexte, quels sont les défis et les pièges? Pour répondre à nos questions, Bernard Tissot nous a rejoint en studio. Bernard Tissot, bonjour.
Bonjour Élodie.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie au cœur de l'Institut de France, institut où vous êtes membre ici de l'Académie des sciences et également membre de l'Académie des technologies. Vous avez longtemps travaillé à l'IFP, Institut français du pétrole, donc IFP que vous avez dirigé pendant une quinzaine d'années. Vous êtes aujourd'hui président de la Commission nationale d'évaluation des recherches sur la gestion des déchets nucléaires. Vous connaissez donc bien la question des ressources énergétiques, d'autant plus que vous avez dirigé le rapport de l'Académie des sciences intitulé Énergie 2007-2050, les choix et les pièges, qui m'a donc servi en grande partie à préparer cette émission. Alors, au cours de cette émission, Bernard Tissot, je vous propose d'aborder ensemble les questions suivantes, à savoir pourquoi les biocarburants peuvent servir de transition après le pétrole, mais ne constituent pas une solution à long terme. L'énergie éolienne, l'énergie solaire, la géothermie peuvent-elles devenir plus que de simples énergies d'appoint, en plus d'être des énergies renouvelables? Les centrales de troisième, voire de quatrième génération auront-elles assez d'uranium pour fonctionner si nous nous dirigeons vers une énergie essentiellement nucléaire? Nous parlerons également de l'hydrogène, gaz qui à lui seul combinerait et le souci environnemental car il ne produit pas de gaz à effet de serre, ainsi que le souci énergétique sur un plan quantitatif puisqu'il se trouve dans l'eau donc en grande quantité et qualitatif puisqu'il possède un fort pouvoir calorifique. Mais ma première question, Bernard Tissot, portera sur le charbon puisque on observe naturellement en Chine puisqu'il y a des mines de charbon mais également aux États-Unis et en Allemagne des centrales à charbon qui sont en construction. Est-ce que ça veut dire qu'après le pétrole, nous allons revenir à l'ère du charbon?
C'est une question qui se pose et je pense qu'il est bon de jeter un regard d'ensemble sur les contraintes qui pèsent sur nous pour notre avenir énergétique. Notre société, vous le savez, est très vorace en énergie, vous venez de le dire, et l'épuisement progressif des réserves de pétrole et de gaz, d'une part, le changement climatique déjà amorcé au cours des 25 ou 30 dernières années, et la nécessité donc de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, et en particulier du gaz carbonique, le CO2, tout cela fait un ensemble de contraintes dans lesquelles il est difficile de trouver son chemin. Dans le domaine des ressources énergétiques et de leur épuisement, plusieurs documents récents émanant d'instances nationales, surtout américaines ou internationales, renforce les positions que nous avons prises dans notre rapport à l'Académie des sciences et qui est sur le site internet de notre Académie. Concernant les ressources énergétiques en pétrole et en gaz, il confirme ce que vous avez dit, cette idée d'épuisement du pétrole d'abord et du gaz ensuite au cours du siècle. Et je crois que surtout ce qu'il faut garder en tête, c'est que la consommation annuel mondial d'énergie, si l'on suit les prévisions émises par le département de l'énergie américain ou l'Agence internationale de l'énergie, indique que nous consommerons 20 milliards de tonnes d'équivalent pétrole, 20 milliards de TEP pour parler selon le langage habituel, au milieu du siècle. C'est dire que si nous laissons l'entière liberté à tout le monde, et si aucun traité international contraignant n'est intervenu, nous allons avoir des problèmes climatiques. Je dis à dessein problèmes climatiques. Je sais que certains parlent uniquement d'un réchauffement, d'autres parlent de phénomènes abrupts. Et je pense qu'il y a du vrai dans l'un et dans l'autre. Mais ça nous oblige en tout cas à limiter cette histoire de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et si vous comparez l'ampleur des réserves qui sont de l'ordre pour chacun du pétrole et du gaz de 150-200 milliards de TEP, de tonnes d'équivalent pétrole, on voit bien qu'une erreur considérable, c'est-à-dire une erreur de l'ordre de 100 milliards de tonnes sur l'évaluation de ces réserves, ne ferait au milieu du siècle que de décaler de 10 ans, en plus ou en moins, l'épuisement du pétrole d'abord et ensuite du gaz. C'est, je pense, le point essentiel qu'il faut retenir de la partie de notre étude sur les réserves et les ressources en hydrocarbures. Pour ce qui est du changement climatique, on connaît bien les cycles de glaciation et de déglaciation à l'époque préhistorique du Quaternaire. Tous les enfants ont vu des images de cela. Et ceux-là sont dus à des phénomènes indépendants de l'homme, mais qui sont toujours présents.
Et ça s'inscrit dans de grandes aires, bien sûr. Hein.
Ça s'inscrit dans de grandes aires avec une première périodicité qui est de l'ordre de 100 000 ans, puis d'autres périodicités plus brèves, mais le phénomène principal, c'est 100 000 ans. Et sur les 30 dernières années, ce n'est pas beaucoup, le phénomène observé est un changement abrupt. Il concerne non seulement la température, mais surtout la fréquence et la violence fortement accrue d'événements, dont jusqu'ici, certains étaient rares, du moins, ne se rencontraient pas sur la totalité des continents et des océans. Par exemple, les canicules, les sécheresses, les inondations catastrophiques dans des pays jusqu'ici tempérés. Cela, nous ne connaissions pas. La diminution considérable des glaciers, et en particulier de la banquise arctique, qui fait que maintenant, les gens recherchent et pensent avoir à peu près trouvé un passage pour aller depuis l'Europe jusqu'au Japon ou à la Chine, sans passer par le canal de Suez ou le canal de Panama, mais en contournant par le nord. C'est ce qu'on appelle le passage du nord-est et le passage du nord-ouest. Et diminution considérable aussi de la banquise arctique et de celle de la qui voisine la cordillère antarctique. Même du volume des calottes glaciaires qui reposent sur un continent, en particulier au Groenland. Seul l'effet de serre additionnel dû aux activités humaines permet de rendre compte de ces phénomènes. Les autres facteurs subsistent, bien sûr, mais ils ne sont pas à cette échelle.
Permettez-moi de revenir, Bernard Tissot, si vous le voulez bien, sur la question du charbon. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une grande hypocrisie, puisque le protocole de Kyoto incite, alors les États-Unis, bien sûr, ne veulent pas le signer, ou en tout cas avance vraiment à petits pas en ce qui concerne le protocole de Kyoto. Mais regardez, là, on revient quand même vers du charbon, puisqu'on sait que le pétrole, on ne va plus en avoir beaucoup. Le charbon, vous me l'aviez expliqué en préparant cette émission, c'est que finalement, on avait assez mal répertorié les mines, donc on se dit qu'on peut peut-être encore en trouver du charbon. Et donc, pour revenir à cette hypocrisie, on a des pays qui signent le protocole de Kyoto, je pense à l'Allemagne, par exemple. Bon, la Chine, je ne sais pas si elle l'a signé. Et à côté de ça, on est en train de construire des centrales à charbon. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais il me semble que dans les émissions de gaz à effet de serre, ça doit être, je pense, quelque chose d'assez rentable sur le plan des émissions de gaz à effet de serre.
Vous avez tout à fait raison. Pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre, le charbon est largement devant le pétrole et devant le gaz. Je crois que j'ai là quelques valeurs numériques. Si vous brûlez du charbon dans une centrale, par exemple, eh bien, vous dégagez 960 grammes de gaz carbonique par kilowattheure électrique produit. Si vous le faites avec du fioul, c'est seulement 720, Si vous le faites avec du gaz, c'est seulement 480. Donc le charbon a certainement pour lui le fait d'exister en quantité notable et que l'on peut espérer, comme vous le disiez, être encore plus importante, mais il a ce grave inconvénient. Alors, ce qui est derrière tout ça, c'est, je crois, le rôle joué par l'électricité dans notre civilisation. On ne peut plus se passer d'électricité et on en consomme beaucoup pour notre vie courante. Si vous imaginez quelqu'un qui habite dans une tour au bord de la Seine et qui prend l'ascenseur le matin, plus d'électricité, plus d'ascenseur. Et pour arriver à son travail à la Défense, plus de métro et plus d'ascenseur non plus pour aller travailler au 35e étage. Il en est de même pour des tas d'autres activités. La communication, une des choses qui a fait typiquement défaillance à la Nouvelle-Orléans lorsque le cyclone Katrina l'a frappé, eh bien c'était la difficulté d'entrer en communication avec les gens qui représentaient l'autorité et le plan de sécurité civile. C'est d'ailleurs en partie ce qui a été la cause de ce qu'il faut bien appeler une crise sociétale. Quand vous avez des gens qui font la loi dans les quartiers parce qu'ils ont un fusil d'assaut dans les bras, c'est plus qu'une catastrophe naturelle. C'est vraiment une catastrophe de société.
Alors, une des productions de l'électricité, c'est par le biais, bien sûr, des centrales nucléaires. Alors, les centrales nucléaires, même si ça fournit en France une grande partie de l'énergie, c'est pas forcément très populaire. On retrouve toujours là le problème de stockage de l'énergie avec les centrales nucléaires, qui fait que nous sommes obligés de conserver des centrales à charbon à proximité. Enfin, à côté, en tout cas, qu'on ne peut pas avoir que des centrales nucléaires.
En France, officiellement, c'est 78%. Je n'irai pas jusqu'à 7 degrés de précision. Je vous dirai seulement qu'en gros, les 4/5 de notre électricité est d'origine nucléaire. Et que les centrales, elles l'ont montré, puisqu'on en a construit 58, je crois, de la génération actuelle, sans avoir de problème majeur. Il y a eu des petites anicroches, comme il y en a dans toutes les usines, mais pas de problème majeur. La génération actuelle, ce qu'on appelle REP, réacteur à eau pressurisée, est capable de fournir de l'électricité dans la situation la plus difficile, c'est-à-dire les mégapoles, ces villes qui ont des dizaines de millions d'habitants, Tokyo, Mexico, Le Caire et autres. Et aucun autre procédé pour générer de l'électricité ne peut entrer en compétition lorsqu'il s'agit de fournir de l'électricité à ces mégapoles, sauf évidemment à couvrir Paris de nuages noirs de charbon et à augmenter de façon catastrophique le changement climatique.
Mais on a trouvé un moyen de stocker cette énergie nucléaire pour les centrales nucléaires ?
Vous voulez dire de stocker l'énergie électrique produite au moment où personne ne la demande.
Voilà, tout à fait.
Oui, alors ça se fait. Ça se fait en grande quantité avec les barrages hydroélectriques. On a aménagé, surtout nos voisins suisses ont très bien aménagé leurs barrages hydroélectriques de façon à ce qu'il y ait un bassin de réception en bas du barrage, quand ils l'ont déjà utilisé une fois pour produire de l'électricité, et avec cette électricité de nuit que les industriels ne demandent pas, on remonte l'eau dans le barrage supérieur, dans la montagne. Et ainsi, les Suisses génèrent à la demande, et en particulier à la demande des Italiens qui ont un déficit relativement important de production d'électricité, et revendent à l'Italie. Donc ça fait le bonheur, si j'ose dire, de trois pays qui s'entendent assez bien.
Alors arrêtons-nous, si vous voulez bien, sur l'hydroélectricité, puisque vous venez à l'instant d'en parler. En France, 15% de notre électricité provient de l'hydroélectricité, donc par le biais de nos barrages. Il me semble, alors peut-être que je me trompe, il me semble que dans les énergies vertes, renouvelables, en tout cas qui ne produisent pas de gaz à effet de serre, on parle de l'énergie éolienne, on parle de l'énergie solaire, on parle peut-être moins de l'hydroélectricité. Pourquoi, selon vous,
l'hydroélectricité, à mon avis, c'est la reine des productions d'électricité. Seulement, encore faut-il disposer de sites qui s'y prêtent. Et en France, il n'y en a plus beaucoup.
Vous voulez dire qu'on a utilisé l'essentiel de nos sites ?
On a utilisé l'essentiel de nos sites. Et les habitants des régions pourraient vraisemblablement construire encore des choses, mais de petite importance. Les habitants des régions considèrent que c'est payé trop cher en perdant son village, son église, son cimetière, c'est payé trop cher pour avoir un petit supplément d'électricité. À l'échelle mondiale, cela se présente autrement. À l'échelle mondiale, il y a à peu près un tiers, très grossièrement, des sites possibles qui ont été équipés. Il existe encore pas mal de sites possibles en Amérique du Sud, en Afrique, certains certainement encore en Chine ou en Inde, mais l'ennui de ces sites, surtout pour l'Afrique et pour l'Amérique du Sud, c'est que les demandeurs, les acheteurs d'électricité sont très loin. Il est bien difficile actuellement de stocker de l'électricité, il est encore plus difficile de la transporter d'un continent à un autre.
Et justement, est-ce que l'on travaille actuellement sur des possibilités de stockage de cette énergie, puisque je suppose que ça changerait la donne ?
On a travaillé beaucoup dans la fin des années 70 et le début des années 80 sur le stockage de l'électricité. Je veux dire des quantités moyennes, parce que les grosses quantités d'électricité, on sait stocker avec les barrages qui marchent à l'envers. Les petites quantités d'électricité, on sait les stocker dans les innombrables petites piles ou batteries que nous avons dans notre électronique, dans nos téléphones, etc. Mais les quantités moyennes, on a beaucoup de mal à les stocker actuellement. Les stockages les plus efficaces, c'est probablement actuellement les accumulateurs, mais c'est quand même quelque chose qui, même si des progrès ont été faits, reste bien lourd et le problème du poids se rencontre tout de suite. Il y a un pays où on a toujours réussi, mais vous évoquez tout à l'heure les éoliennes, il y a un pays où on a implanté des éoliennes il y a longtemps et qui s'en est satisfait très bien, c'est l'Australie. L'Australie, c'est un pays immense dans lequel les fermes sont très isolées et les élevages, puisqu'il s'agit quand même très largement d'élevages, peuvent aller jusqu'à 100 000 moutons ou 40 000 vaches. Donc il faut abreuver, dans le climat relativement aride de l'Australie, il faut abreuver les bêtes. Et on avait installé, enfin les Australiens avaient bâti des éoliennes qui allaient générait de l'électricité et pompait l'eau des nappes souterraines. L'eau, ça se stocke aisément, il suffit de faire des bacs suffisamment importants, suffisamment grands, et on peut stocker de quoi abreuver le bétail pendant un mois si l'on le veut ou si on le peut.
Je vous propose de marquer une courte pause, et puis dans la suite de notre émission, nous poursuivrons sur la question des énergies renouvelables, de l'éolienne en premier lieu, mais également du solaire. A tout de suite.
Dans sa médiathèque, Canal Académie vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire ? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique ? Quels sont ses combats ? Quelles sont ses fiertés ? Ses projets ? Alain Decaux se livre en toute vérité. Et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision, à la radio. Alain Decaux est sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Bernard Tissot, membre de l'Académie des sciences et rapporteur du rapport Énergie 2007-2050, le choix et les pièges. Dans cette deuxième partie avec vous Bernard Tissot, nous allons nous intéresser un peu plus aux énergies renouvelables. Nous en parlions à la fin de l'émission sur les éoliennes en Australie. Les énergies renouvelables, on pense bien sûr aux éoliennes, également à l'énergie solaire. Nous parlerons également de la géothermie, même si ça n'entre pas directement dans le domaine de l'énergie renouvelable. Finalement, quand on regarde les énergies renouvelables de plus près, on a l'impression qu'il s'agit plus d'une mobilisation de chacun. On ne peut pas forcément avoir beaucoup d'énergie avec le solaire ou les éoliennes.
Le principal problème des deux énergies renouvelables que vous venez de mentionner, c'est le fait qu'elles sont intermittentes. Pour ce qui est du solaire, À part les nuages, on peut quand même prévoir la nuit et le jour. Mais pour les éoliennes, c'est beaucoup plus complexe parce que il faut à la fois assez de vent pour produire de l'électricité, et il ne faut pas en avoir trop, sinon l'édifice s'écroule. Et l'écroulement d'un édifice de 150 mètres de haut avec des pales de 50 mètres, c'est quand même un grand moulin à vent.
Il y a plusieurs tailles d'éoliennes, il faut le préciser.
Oui, il y a plusieurs tailles, même actuellement on favorise ce genre d'édifice de manière à avoir le plus possible, à accroître la puissance, et la puissance délivrée peut dépasser maintenant 1 mégawatt. Pour vous donner une échelle, les centrales nucléaires, c'est entre 1000 et 1500 mégawatts. L'ennui donc de ces formes d'énergie, c'est le caractère intermittent. Vous n'avez par exemple très peu de chances a priori pour que les périodes pendant lesquelles les éoliennes vont donner au maximum, ce soit justement les périodes où les gens vont demander le plus d'électricité pour se chauffer ou dans les usines ou pour n'importe quelle application, communication par exemple.
Parce qu'il reste toujours le problème de stockage.
Parce que le problème de stockage n'est résolu, comme je vous le disais, que pour les très grosses quantités d'électricité, les barrages à l'envers, ou pour des quantités très petites, les innombrables peut-être piles et accumulateurs que vous utilisez dans votre électronique.
Donc ça suffit pour une énergie d'appoint, c'est ça?
Oui. En fait, on s'aperçoit que nos voisins allemands et danois ont beaucoup développé les éoliennes. Leur idée était, je crois, de fermer les centrales nucléaires et de les remplacer soit par des centrales au charbon, soit par des éoliennes. Ils ont donc une large expérience et ils réalisent que le temps efficace d'une éolienne, ça représente à peu près 20% du temps. C'est-à-dire que quand, comme je vous le disais, quand il fait trop de vent, on est obligé de mettre les pales en drapeau. Et quand il ne fait pas assez de vent, ben on produit peu d'électricité.
Alors comment vous expliquez, par exemple, en France, pour prendre l'exemple de la France, qu'il y a un développement du parc éolien ? En Bretagne, par exemple, également dans les Pyrénées, il me semble qu'ils sont en train de chercher des zones, et puis en Corse aussi.
Il y a certainement des zones qui sont plus favorables que d'autres. Ça, vous savez bien que sur les côtes, c'est en général là où vous avez le maximum de vent, et aussi dans certaines montagnes. Ceci ne répond pas à la totalité du problème, puisque nos voisins allemands considèrent qu'on ne peut guère aller au-dessus de 20% de la consommation électrique assurée par des éoliennes. Au-delà, il faut soit maintenir de vieilles centrales à charbon pour les relancer quand la demande est trop forte, soit construire de nouvelles centrales au gaz ou au charbon qui seront dédiées à suppléer aux insuffisances de production des éoliennes.
Pour ce qui est de l'énergie solaire, là, il semble que ce soit vraiment plus pour l'habitant et sa maison qui veulent chauffer son eau ou qui veulent peut-être même se chauffer à l'énergie solaire.
Oui, vous savez, entre l'Allemagne et la France, quand on regarde les quantités d'énergie nécessaires pour chauffer une maison, on trouve en Allemagne à peu près 100 kWh par an et par mètre carré, et en France, 200. Je ne pense pas que l'Allemagne ait un climat spécialement plus doux que le climat de la France, donc il faut tirer la morale de tout cela.
Est-ce que culturellement, ils sont plus associés aux problèmes d'environnement, c'est ça que vous voulez dire ?
Peut-être, et puis peut-être aussi le fait qu'ils sont plus réceptifs à l'installation de fenêtres étanches, de doublures des toits avec des matériaux convenables, etc.
Bah, la population y pense, parce qu'avec le coût des énergies, comme le gaz, comme le charbon, comme le pétrole, les gens, quand même, de plus en plus, vont isoler leurs maisons ou leurs appartements.
Oui, mais ces équipements demande à vaincre une réticence sociologique.
Oui. La géothermie, qui fait partie aussi de l'habitation, ça c'est quelque chose d'intéressant. Alors, peut-être que c'est encore coûteux, parce que peut-être pas encore très développé, je ne sais pas, mais c'est un sujet intéressant en tout cas.
Il y a divers types d'applications géothermiques.
Peut-être on peut rappeler...
La plus simple, ce sont dans les régions qui, au point de vue de la géologie, sont des régions très actives. J'ai en tête, par exemple, l'Islande et la Nouvelle-Zélande. Ce sont des pays dans lesquels on a très facilement de la vapeur sous pression, de l'eau à des températures élevées, et on peut, dans ces pays, tabler sur la géothermie pour faire l'essentiel de l'électricité. Parce que la géothermie, elle ne s'interrompt pas comme le vent, ou elle ne s'interrompt pas comme le jour et la nuit.
On peut peut-être rappeler en quoi consiste la géothermie ?
Il y a plusieurs formes. Ou bien on fore des puits et il arrive directement de l'eau très chaude ou de la vapeur. On peut aussi faire de la géothermie dans des roches qui sont sèches mais très chaudes. On injecte dans les formations géologiques de l'eau que l'on récupère à petite distance. Et l'eau a chauffé pendant son trajet et vous donne peut-être pas autant de facilité que celle de l'Islande ou de la Nouvelle-Zélande, mais vous donne quand même des résultats qui sont intéressants et il y a des projets de recherche là-dessus. Alors que l'Islande ou la Nouvelle-Zélande, c'est actuellement opérationnel.
Et l'idée, c'est de chauffer sa maison, à garantir en tout cas une température, été comme hiver, de, alors je ne sais pas, plus ou moins 8 degrés, c'est ça, garantir une température stable de 8 degrés ?
Oh, on peut même faire beaucoup mieux que ça. Je veux dire que, bien sûr, on chauffe les maisons, mais on peut aussi faire de l'électricité, faire une centrale électrique à la géothermie. Enfin, il y a aussi une étape plus modeste, mais qui peut avoir de l'intérêt. Il s'agit d'aller chercher des nappes souterraines à des températures moyennes, 50, 60 degrés, et justement de chauffer les immeubles. On ne peut pas le faire directement parce qu'il y a trop de sels minéraux qui sont dissous dans l'eau profonde et la corrosion fait rapidement son œuvre. Donc il faut des échangeurs, mais on peut ainsi chauffer les maisons ou même les immeubles.
Le principe de ces énergies, c'est qu'elles sont, elles sont vertes en fait, hein, énergie éolienne, vertes, oui. Énergie solaire, le principe de la géothermie. Et justement, revenons, puisque vous avez parlé à l'instant des nappes souterraines, revenons à l'instant sur notre problème d'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre et du changement climatique. Une des questions, qui n'est plus vraiment une question puisque je crois que ça se fait déjà, c'est de capter le CO2 et de l'injecter sous terre. Il me semble que Total réalise déjà des essais pour voir ce que ça donne.
Oh, il y a plusieurs essais qui sont menés actuellement dans le monde. Il faut bien voir qu'il y a deux problèmes et qui méritent des recherches approfondies et peut-être longues. Le premier problème, c'est la séparation du gaz carbonique. Les essais qui sont menés actuellement en mer du Nord et au Canada consistent à injecter du gaz carbonique pur. Mais ce qui sort d'une centrale à charbon, d'une centrale thermique, c'est loin d'être du gaz carbonique pur. Si l'on fait la combustion avec de l'air, il y a de l'azote. Et si les charbons contiennent du soufre, ce qui peut arriver, on produit des composés soufrés. Et là, les méthodes de séparation que nous utilisons dans l'industrie chimique ne peuvent pas être simplement transposées. L'autre problème est celui de l'injection dans le sous-sol. Nous ne connaissons pas encore bien les conséquences de l'injection de gaz carbonique dans le sous-sol. Nous avons, comme je vous le disais il y a quelques instants, des expériences en cours en mer du Nord et au Canada. Mais l'évolution à long terme, les effets à long terme de cette eau chargée de gaz carbonique sur la roche sont encore insuffisamment connus. Il y a donc là deux domaines d'investigation, la séparation d'une part et l'injection sous terre d'autre part, qui demande encore beaucoup d'efforts.
Est-ce que par là, ça ne serait pas une solution qui permettrait aux grands pétroliers ou les gens qui produisent du charbon, enfin qui font de l'extraction de charbon, est-ce que ça ne serait pas une solution pour eux de se dédouaner en disant, écoutez, effectivement, on produit des émissions de gaz à effet de serre, mais comme on capte le CO2, et qui est d'ailleurs une pratique coûteuse, comme on capte le CO2, vous n'allez pas nous reprocher d'extraire du charbon ou du pétrole.
Dans son principe, vous avez raison. Le problème est la taille des expériences qui sont menées actuellement et de ce qu'il faudrait injecter dans quelques décennies. Dans quelques décennies, nous produirons probablement, sur toute la Terre, 50 milliards de tonnes de CO2.
Actuellement, on a combien de production pour avoir une échelle? Parce que c'est vrai que ce sont des chiffres
25.
Tellement importants. Un doublement.
Un doublement. Les expériences qui sont menées, celles que j'évoquais et celles que Total va réaliser, je suppose, sont de l'ordre du million de tonnes de CO2. Vous voyez qu'entre faire quelque chose de significatif en 2050 par rapport à 50 milliards de tonnes, ça veut dire en stocker 10 ou 20 milliards de tonnes, et par rapport aux expériences que j'évoquais à l'instant, il y a un rapport 10 000 ou 20 000, ce qui est énorme. Je ne me souviens pas de procédé industriel qui soit passé sans ennui ou sans problème de l'échelle 1 à l'échelle 10 000 ou à l'échelle 20 000.
Un des problèmes que vous avez soulevé en préparant cette émission, Bernard Tissot, c'est le fait qu'en injectant ce CO2, on ne savait pas exactement ce qui allait se passer. Et surtout, suivant les zones géologiques dans lesquelles on allait les injecter, on peut dissoudre le calcaire. Ça veut dire qu'en d'autres termes, éventuellement, si on injecte du CO2 dans une zone calcaire, on peut avoir des affaissements de terrain.
On peut,
des glissements de terrain.
Oui,
là.
On peut avoir des glissements. Il y a dans les paysages calcaires un phénomène qui est bien connu. Ce sont des espèces d'effondrements de la surface, un peu comparables à ce qui arrive dans les régions minières, et qui sont dus à la dissolution en profondeur de couches de calcaire.
Et ce carbone qui sera injecté, qui serait au conditionnel ou qui sera au futur injecté, est-ce qu'à terme il pourrait être réutilisable puisque c'est du carbone?
Dans l'état actuel des choses, la réponse est non. Il s'agit d'une forme de carbone que l'on ne peut pas actuellement utiliser pour faire des synthèses de carburant, par exemple. Alors que le carbone qui est obtenu à partir de la gazéification de la biomasse, lui pourrait, il n'est plus constitué de gaz carbonique CO2, il est constitué d'oxyde de carbone CO et d'hydrogène. Moyennant peut-être un ajout d'hydrogène, on pourra certainement synthétiser des produits de bonne qualité, par exemple pour les moteurs diesel, ou pour l'essence d'ailleurs.
Mais on reste encore à une longue échelle. Je vous propose de marquer une seconde courte pause, Bernard Tissot. Dans la troisième partie de l'émission, nous parlerons des transports, puisque bien sûr nous avons parlé des différentes énergies, nous reviendrons plus particulièrement aux transports, et à la notion de biomasse, qui pourrait être une solution, pourquoi pas, et bien sûr de l'hydrogène, on en parle beaucoup en ce moment, à tout de suite.
Le philosophe René Girard de l'Académie française poursuit sa réflexion sur la violence qui, échappant à tout contrôle, menace la planète. Il vient de publier un nouveau livre, Achevé Clausewitz. Retrouvez-le sur Canal Académie.
Suite de notre émission éclairage en compagnie de Bernard Tissot avec qui nous évoquons le rapport énergie 2007-2050, les choix et les pièges. Ça fait donc une bonne demi-heure que nous parlons ensemble des différentes sortes d'énergie que nous pourrions utiliser dans le futur. Nous avons beaucoup parlé des énergies renouvelables, également des centrales nucléaires. Abordons la question des transports qui est finalement là une question très importante puisque dans le rapport que vous avez rédigé avec d'autres confrères de l'Académie des sciences, Vous expliquez que 75% du pétrole est utilisé pour le transport des pays industrialisés.
C'est exact. Les produits pétroliers qui sortent des raffineries sont utilisés pour le transport à hauteur de 50% dans les pays en développement et à hauteur de 70% dans les pays industrialisés. C'est aussi la consommation qui présente la plus forte croissance annuelle. C'est-à-dire que cela nous promet des beaux jours. À titre d'exemple, nous pouvons considérer une personne qui va de Paris à Marseille. Si cette personne y va en TGV, on va lui imputer 5 kilos de CO2 pour son voyage. Si cette personne y va en avion, ce sera 20 fois plus. Et si cette personne y va en voiture, ça sera 30 à 50 fois plus selon la voiture, selon son mode de conduite et selon le nombre de passagers également. Il s'agit donc d'un problème difficile. Il est également très difficile dans les mégapoles qu'on évoquait tout à l'heure, où il semble bien acquis que la seule solution qu'on puisse apporter, ce sont les transports collectifs électriques. Donc,
vous voulez dire
train,
que oui. Oui, pardon, le seul moyen de se déplacer quand on n'aura plus de pétrole ou quand le pétrole deviendra trop cher, c'est l'électricité.
C'est en tout cas celui que nous savons exploiter. Nous utiliserons peut-être des choses futuristes, je ne sais pas. Peut-être les ULM qui sont rapidement apparus puis ont disparu, ou à peu près disparu, de notre paysage, rentreront-ils en faveur ? Je pense quand même que dans les mégapoles de 30 millions d'habitants, il y aurait certainement quelques problèmes.
Il y aurait un trafic aérien dense.
Oui, absolument. La partie la plus difficile, c'est finalement le fret routier. Le fret routier dans notre pays est... presque partout dans le monde, s'est largement développé. Il a réduit la quantité cumulée de fret transporté soit par eau ou soit par voie ferrée qui peut être électrique, à environ un peu moins de 20% du fret total. Donc là, c'est un changement modal qui est lourd de conséquences, il ne faut pas se le dissimuler. Si nous en venons à ceci, nous nous retrouverons un peu dans la situation de la Suisse. La Suisse est un pays très montagneux, qui a un réseau routier qui coûte très cher à entretenir, et la Suisse essaye de déplacer le plus possible les camions. Elle charge directement les camions sur des plateformes et les fait passer dans des tunnels pour aller d'une vallée à une autre. Et puis, finalement, le camion reprend le pas quand il est arrivé dans la vallée du destinataire.
Est-ce que les biocarburants, dont on parle beaucoup en ce moment, et qui d'ailleurs sont l'objet d'une polémique, sont une solution ? Est-ce que ce sera une transition du pétrole vers une autre ressource énergétique, ou est-ce une solution ?
Les biocarburants tels qu'ils sont utilisés actuellement ne constituent une solution pérenne que dans des cas assez rares. C'est le cas du Brésil. Au Brésil, si on sacrifie un litre de produit pétrolier, on forme 8 litres d'éthanol. On met cet éthanol dans des voitures qui ont des moteurs adaptés. Et les Brésiliens sont tout à fait honnêtes avec nous et nous disent « Le pouvoir calorifique de l'éthanol est à peu près la moitié de celui de l'essence. Donc, si nous avons 8 litres d'éthanol, comptez que nous avons produit 4 litres de produits pétroliers. »
Et il faut enlever le litre de pétrole qui a servi à faire la canne à sucre.
Voilà. Mais si de 1 que vous sacrifiez, vous arrivez à 4, vous avez quand même fait un beau pas en avant. Chez nous, c'est beaucoup plus compliqué. Les experts ont publié dans les mois qui viennent de s'écouler des rapports qui sont assez critiques, qui posent des tas de problèmes. En gros, jusqu'où faut-il aller et comment peut-on faire un bilan énergétique exhaustif depuis la Terre jusqu'au moteur et à la roue du véhicule. C'est un problème extrêmement complexe et je ne pense pas que les bilans que les uns et les autres présentent pour discuter sur ces résultats soient encore les bilans les plus parfaits que l'on pourrait faire.
Dans votre rapport, il est expliqué que si toutes nos voitures roulaient avec des biocarburants, eh bien, pour faire rouler le parc de voitures dans le monde, eh bien, les terres arables ne suffiraient pas, en fait. On n'aurait pas assez de terres cultivables pour pouvoir faire rouler toutes nos voitures.
C'est le problème de fond des biocarburants actuels. Les biocarburants actuels, en dehors du cas du Brésil, comme je vous le disais, sont des plantes qui nécessitent des terres arables et qui nécessitent de l'eau. La compétition avec la nourriture des 9 milliards d'habitants qu'il y aura sur Terre au milieu du siècle est un très grave problème. Nous pensons qu'il ne sera pas possible de distraire une quantité importante des terres arables au milieu du siècle si l'on veut nourrir 9 milliards d'habitants.
En d'autres termes, il y aura un choix à faire entre nourrir une population et se déplacer.
Oui, et comme ce ne sera probablement pas la même population, il y aura le choix à faire entre nourrir une population pauvre et faire se déplacer une population qui, sans être riche, est à l'aise.
Ça pose question quand même. Une des solutions qui est proposée dans le rapport, en tout cas une question à l'étude, c'est la biomasse. Et donc, replanter des arbres, peut-être même dans la zone, pourquoi pas amazonienne, des forêts que vous appelez de courte rotation, c'est ça?
Oui, oui, oui.
Et donc accélérer ensuite le processus de fermentation, de pourriture, pour pouvoir produire de l'énergie, en fait, tout simplement.
Ça, ce serait la voie vraiment intéressante. Parce que les forêts acceptent de pousser sur des sols qui ne sont pas très riches et qui ne sont pas les terres arables. Finalement, la suppression des forêts a été faite par les fameux moines défricheurs au XIIe siècle ou au XIIIe siècle, uniquement dans les endroits où on pouvait poursuivre année après année de planter et de récolter. Les zones de terrain trop pauvres ont été très vite abandonnées. Et certaines de ces zones défrichées au XIIe siècle ont été abandonnées au bout d'une ou deux générations. Donc, se focaliser sur ces terrains qui sont pauvres serait sans doute une solution. Mais nous sommes loin de tenir en main cette filière de production de carburant. Si vous allez dans une forêt et si un hêtre s'est abattu, 10 ans après, vous le voyez toujours. Il faut, pour le dégrader et pour le, comment dire, fragmenter ces macromolécules en petites molécules qui soient fermentables, il faut la conjonction de bactéries et de champignons microscopiques.
Ça,
c'est
suppose
assez complexe.
On ne peut pas le faire, nous, de manière artificielle. Je suppose
si,
qu'il existe
peut,
quand même.
On veut le faire de manière artificielle, soit avec une hydrolyse, puisque c'est le terme qu'utilisent les chimistes, avec une hydrolyse acide, ou avec des ferments, avec des enzymes particulièrement adaptées. Mais tout ceci, ça reste à mener.
Et cette méthode, elle serait possible à grande échelle, ou pareil, ce serait de l'appoint?
Je n'ai pas de données précise là-dessus, mais je peux vous dire que si en 2030 on consacrait toutes les terres arables du monde à faire rouler des voitures, elles n'y suffiraient pas. En ce qui concerne les grandes forêts, c'est différent. Il faudrait avoir un recensement qui aille bien au-delà de cette simple expression d'intérêt que tout le monde actuellement fait.
Bernard Tissot, il nous reste 5 minutes, 5 malheureuses petites minutes pour parler de l'hydrogène. L'hydrogène qui a été l'objet d'une séance à l'Académie des sciences au mois d'avril 2008 sur les défis d'hydrogène. Et très récemment, Boeing a communiqué en expliquant qu'ils avaient réussi à faire voler un avion. Alors, un avion de 800 kg, volé donc sur une période de 20 minutes à 100 km/h. Donc, on n'est pas encore dans c'est pas encore la 380. Mais donc, à faire voler cet avion avec une pile à combustible qui utilise donc l'hydrogène. Alors l'hydrogène, est-ce le gaz qui va finalement être la nouvelle énergie à venir, non seulement qui ne produira pas de gaz à effet de serre, mais qui en plus aura un fort pouvoir calorifique?
C'est une solution qui, évidemment, pour un scientifique, pour un chercheur, est tentante. Actuellement, l'hydrogène est produit dans les raffineries en sacrifiant une fraction que les raffineurs appellent naphtha et qui est assez proche de l'essence. On arrive à partir de cela à fabriquer un mélange de CO plus H2, on sépare l'hydrogène et on peut distribuer de l'hydrogène. Mais la distribution est relativement peu importante parce que le plus gros consommateur d'hydrogène, ce sont les raffineries, pour améliorer les fractions lourdes du pétrole.
Oui, donc vous voulez dire qu'en fait, la source même de l'hydrogène, ça reste encore quelque chose qui, sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, n'est pas très intéressant.
Alors, il y a plusieurs programmes de recherche qui sont là-dessus. L'un d'eux, par exemple, s'intéresse aux réacteurs nucléaires à haute température, ou à très haute température, qui pourraient réaliser la dissociation de la molécule d'eau. Évidemment, là encore, c'est le rêve pour le scientifique,
c'est
mais
l'hydrolyse.
Encore faut-il le faire. On pourrait à ce moment-là produire de l'hydrogène en quantité importante.
Mais il existe déjà des piles à combustible, alors
oui.
Peut-être encore dans le domaine expérimental, mais il ne semble
pas. Oui, il existe même des autobus fabriqués au Canada, qui sont des petits autobus, et qui ont comme source d'énergie une pile à combustible qui fonctionne à l'hydrogène. Alors les piles à combustible sont quand même des instruments assez délicats, mais...
Donc très coûteux, c'est ce que vous voulez dire?
Non, il faut acquérir une grande expérience et le catalyseur qui est là-dedans est en général du platine.
Donc là, c'est cher.
Alors là, c'est cher et c'est rare parce que la production annuelle de platine n'est pas fantastique. On a essayé de le remplacer par d'autres métaux,
le
du
nickel.
Palladium, du ruthénium, des tas de choses.
Du nickel et du fer aussi, non ? Il semble.
Sans doute aussi, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à passer ce verrou. Je pense qu'on y arrivera sans doute, mais il y a un autre problème qui est derrière, c'est le problème de la distribution et du stockage de l'hydrogène. Vous avez en gros trois écoles, ceux qui veulent stocker sous très haute pression. C'est parmi les constructeurs automobiles, c'est là où vous le trouvez le plus de gens intéressés. Soit ceux qui veulent le stocker à l'état liquide, ce qui vous oblige d'opérer à des températures extrêmement basses. Vous n'êtes pas au zéro absolu, mais vous n'en êtes pas très loin.
Au Kelvin, hein.
Oui, vous n'êtes pas à zéro K, mais vous n'en êtes pas très loin. Et donc, c'est assez difficile à réaliser. BMW pense, je crois, avoir réalisé une voiture qui présente cette caractéristique.
Mais c'est dans le cadre de l'image de l'entreprise, peut-être, non ? C'est plus
peut-être
dans une démarche.
C'est une recherche pour l'avenir.
Hein. D'accord.
Et puis, vous avez une troisième voie, qui sont les hydrures métalliques.
De quoi s'agit-il ?
Eh bien, il y a des formes qui semblent relativement stables, dans certaines conditions de température et de pression, bien sûr, qui sont des formes où un réseau moléculaire, imaginez un réseau de glace par exemple, contiendrait des atomes de divers métaux et qui stabiliseraient l'édifice. On pourrait, dans ces conditions, contenir à l'intérieur des cavités de l'hydrogène. Alors on sait qu'il existe quelque chose du même genre à l'état naturel. Les premiers hydrocarbures, et particulièrement le méthane généré par exemple dans des sols, dans des pergélisols en Sibérie ou dans le Nord Canada, se retrouvent assez souvent à l'état une sorte de glace contenant le méthane.
Un matériau poreux, en quelque sorte.
Un matériau avec une porosité qu'on peut détruire au moment où on veut utiliser le gaz. Ceci concerne le méthane. Pour l'hydrogène, il reste encore à mener beaucoup de recherches et beaucoup d'expériences.
Et on imagine pouvoir réaliser des expériences à partir de 2030, voire même 2050. C'est les... période que vous donniez dans votre rapport ?
Oui, peut-être vers 2030 ou 2050. Mais toutes ces choses-là sont extrêmement difficiles. Nous discutions tout à l'heure à propos du stockage de l'électricité. Eh bien, on s'en occupait dans les années 70. Et on pensait que on pourrait obtenir un résultat dans 30 ou 50 ans. Nous y sommes encore. C'est la même chose que l'éradication du cancer, comme certains évoquaient également il y a 30 ou 40 ans. Ben, nous avons fait de très gros progrès, nos biologistes et nos médecins ont fait de très gros progrès, mais l'éradication, c'est pas encore malheureusement pour demain matin.
Eh bien, je vous remercie en tout cas Bernard Tissot de nous avoir rendu visite ici à Canal Academy pour développer avec nous ces quelques questions. On aurait pu faire une émission beaucoup plus longue en deux parties, mais malheureusement nous n'avons pas pu le faire. Mais je rappelle en tout cas le titre du rapport que vous avez dirigé et j'invite nos auditeurs à télécharger ce rapport puisqu'il est sur le site de l'Académie des sciences et il s'appelle donc Énergie 2007-2050. Les choix et les pièges. Merci Bernard Tissot. Vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, vous renvoyez les gens à ce document qui est bien. Je dois dire que j'avais écrit un livre sur le même sujet qui s'appelait Halte au changement climatique et qui a été publié en 2003. Mais en 2003, les gens étaient modérément intéressés par les problèmes d'épuisement des hydrocarbures et par les problèmes de changement climatique.
Et la maison d'édition ?
C'est chez Odile Jacob.
Odile Jacob. Merci beaucoup Bernard Tissot et puis à une prochaine fois, j'espère, pour une prochaine émission. À plus tard.
Au revoir.
Au revoir.
Merci.